Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Une émission consacrée au sport moto avec le premier rendez-vous du championnat du monde de vitesse 2020 qui commence ce week-end sur le circuit de Losail au Qatar. Malheureusement, la course MotoGP a été annulée en raison du coronavirus, ce fameux virus qu'on appelle aussi Code 19, je crois, un truc comme ça. Ouais. Voilà, mais les championnats Moto 2 et Moto 3 auront lieu et les départs seront donnés cet après-midi. Voilà, Vincent Falcom, champion de France, qui est avec nous aujourd'hui. Vincent, bonjour.
Bonjour, ça va l'ami?
Alors on parle de sport, ben forcément il fallait bien inviter aussi des sportifs de la région ici.
Bah oui, il faut. Donc s'il y en a, il faut.
Bah tu es sportif.
Bah oui, quand
voilà.
même.
Voilà, donc tu vas nous parler de tes projets pour 2020, tu changes de catégorie.
Oui, je passe en 600 en FSBK, super sport.
Ça va, c'est un autre niveau ça.
Bah c'est un niveau relevé quand même, il y a beaucoup de pilotes, il y a des très beaux pilotes qui reviennent, notamment Cédric Tangre, il y a des pilotes qui le refont, notamment le champion Maximilien Beau. Il y aura beaucoup de niveaux et franchement ça va être bien.
Alors je sais que tu as tourné en Espagne là, sur un circuit il y a quelques semaines.
Oui, j'ai roulé à Alcaraz, on a fait des essais.
Tu as épaté, il paraît, les participants.
Oh oui, ça.
Tu les as un peu même écœurés,
vraiment. Non, quand même pas, mais
c'est ton père qui m'a dit ça.
Bah, il y en a qui sont partis plus tôt, quoi.
Voilà, d'accord. Ok, voilà. Autre pilote moto, c'est Julien Zuliani. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Alors, tu es éducateur sportif FFM.
Oui, en fait, je suis titulaire du CQP Initiateur Moto. C'est un diplôme FFM. Et ce qui me permet d'effectuer des stages en fait, d'initiation pour les petits, pour les grands, enfin, et dans tous les domaines au niveau de la moto. Quoi.
Et tu te lances pour en 2020 sur le promo Sport 1000.
Voilà, oui.
Donc tu cherches des partenaires.
Voilà, oui. En fait, j'entame ma deuxième saison en promo Sport 1000 sur un R1 2019. Et du coup, bon, tout le monde connaît le coût financier des saisons de moto. Et du coup, je suis un peu là pour aussi essayer de chercher des partenaires pour ma saison.
Bon, t'as un petit peu d'heures de piste derrière toi parce que t'as participé au Pro Twin de 2011 à 2017.
Voilà, oui. À l'époque, je roulais sur des Ducati. Hein, ouais. C'est des motos qu'on montait nous-mêmes. On faisait même des prototypes. Et ensuite, j'ai fait un peu d'endurance.
Les 12 heures de Manicourt, 4 fois.
Voilà, j'ai fait 4 fois les 12 heures de Manicourt. Ça fait partie du championnat d'Europe d'endurance. J'ai fait ensuite les 24 heures de Barcelone. Et puis après, des courses un peu plus petites, comme les 4 heures du CMC, les 300 miles du DCF, etc. Quoi.
Ah, très bien. Voilà. Et pour terminer, nos passionnés de moto, alors Nicolas Poiret, Nicolas Langlas, bonjour.
Bonjour l'ami.
Bonjour l'ami.
Bonjour, voilà. Et puis deux bons duels, alors Claude et puis Jean-Pierre, bonjour. Hein.
Salut. Bonjour.
Alors vous êtes le vieux de la vieille, hein. vous suivez les... À chaque fois, on le répète, hein. Vous suivez les Grands Prix depuis 40, 50 ans. Hein.
Bah oui, dans les années 70, on disait aux gens qui étaient passionnés de moto... Ils ont le virus de la moto.
Oui, le virus de la moto.
Et moi, je vais vous parler du virus de la moto. Et je vais vous parler aussi de Loris Capirossi. Loris Capirossi, c'était un ancien pilote de MotoGP qui est maintenant directeur de course à la Dorna, donc à l'organisateur des MotoGP.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'interdire les courses? Parce que là, au Qatar, le MotoGP, il faut raconter l'histoire, hein, c'est parce qu'ils sont partis. Et il y a beaucoup d'Italiens aussi dans le MotoGP. Hein.
Le problème de ce qui s'est passé là-bas, c'est que le Grand Prix, d'abord, ils ont des essais au Qatar. Les essais, c'est pour les Moto 3 et Moto 2. Donc les pilotes étaient déjà présents au moment où ils ont pris l'initiative de interdire. Surtout à cause de l'Italie qui a un foyer en plein Italie où il y a beaucoup de pilotes italiens et surtout au Moto Grand Prix. Donc ils ont fermé leurs frontières et donc la chose à faire c'était d'interdire au moins une partie. S'ils venaient, ils en avaient pour 15 jours d'arrêt sur le côté de mise en quarantaine.
Ouais. Ah oui. Oui,
donc ils ne pouvaient pas faire le Grand Prix. Donc ils ont interdit aux pilotes de Moto Grand Prix de... Le problème, c'est que toutes les machines étaient déjà là-bas. Hein. Je dis ça. C'est-à-dire qu'ils ont dû rapatrier toutes leurs machines.
Alors, pas de Grand Prix, pas de MotoGP au Qatar. La Thaïlande,
Alors là, c'est reporté.
C'est reporté au 4 octobre. Reporté, ouais.
Donc, alors, on pourrait dire que vraiment le Grand Prix, le championnat commencerait donc le 5 avril.
C'est pas sûr.
C'est de moins en moins sûr. Puisqu'en fait, ça commence à arriver aux States, donc ça va recommencer. Même au cinéma.
Oui, bon. Parce qu'ils ont une centaine de
corps. On n'aura pas de Moto2 et pas de Moto3 non plus. Ouais.
Je me souviens quand on roulait en Inde, on avait l'impression d'être dans un jeu vidéo. Hein, parce que ça vient de tous les côtés, il y a un éléphant en contresens, il y a des autobus qui font demi-tour sur l'autoroute, il y a des trous d'un mètre dans la route. Et donc on a l'impression d'éviter sans arrêt les trucs. Et ben là quand je vois les images à la télé, j'ai l'impression d'un jeu vidéo pareil. Quoi. C'est surréaliste, t'as des villes entièrement désertes, t'as des gens qui se baladent avec des masques. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction.
Voilà.
C'est du délire quand même, non?
Mais je vous trouvais pas ça bizarre quand même. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est notre ami Laurent qui est à la technique et le chef de bord de cette émission.
J'ai mis un masque, alors je peux pas trop parler. Je suis désolé.
On n'a pas que le MotoGP.
Spécialement aujourd'hui dans cette émission. Nico, tu vas nous parler de...
Ben oui, de ce virus, parce que quand même...
Alors quel virus? La passion de la moto ou le virus qui nous rend malade?
C'est du délire, l'ami, c'est du délire. On agresse les Asiatiques dans la rue. Un tiers de l'humanité se balade avec un filtre à café sur le nez. On préfère boire de la mort subite que de la corona. Les gens se donnent des coups de pied ou des coups de coude pour se dire bonjour. Et ça, c'est pas malin, parce qu'on nous dit aussi qu'il faut tousser dans le coude. Alors, bon, tout le monde flippe. Il faut dire que on n'est pas sur un bon vieux virus de qualité. Là, c'est du virus chinois. Les gens ne prennent plus l'avion. Le gel hydroalcoolique est devenu plus cher que le whisky. À la télé, il y a des émissions pour montrer comment on fait pour se laver les mains. On se demande bien comment on faisait avant. On annule tous les événements pour éviter les rassemblements. Mais les gens se précipitent tous ensemble dans les supermarchés pour faire des provisions de pâtes et de riz. Et c'est con parce que le riz c'est chinois et les pâtes c'est italien. Bref, tout le monde fait n'importe quoi et le Covid-19 inonde les écrans. Heureusement, le gouvernement prend des décisions courageuses. Vous connaissez la dernière de Castaner ? Pour les municipales, il faudra respecter une distance de sécurité d'un mètre entre chaque votant.
Non,
c'est pas déconné. Franchement, l'hystérie me semble bien plus contagieuse que cette connerie-là de virus. On compte que 16 décès en France, alors que la grippe tue chaque année plus de 12 000 personnes dans l'indifférence générale. Et pendant ce temps-là, on te balance un 49-3 pour te niquer ta retraite.
Ah oui, là, c'est excellent.
Déjà que le corona machin s'en prend surtout aux retraités. Hein. En fait, Macron et le Covid-19, ils sont super potes. Bon, la miche, il s'en fout du 49-3, il roule en 49-9. Bon, pour le MotoGP, c'est mal barré. Les Qataris, qui transpirent des pétrodollars à cause de leur torchon sur la tête, ne veulent plus accueillir d'Italiens. Et pourtant, Loris Capirossi, le directeur de course de la Dorna, est présent au Qatar pour le Moto 2 et le Moto 3. Mais comment est-ce possible ?
Ouais, un Italien là-bas, ouais.
Hé, il est domicilié à Monaco. Alors oui, les Qataris, ils sont nuls en géo. Et on savait pas, mais le passeport monégasque protège du Covid-19. On continue dans n'importe quoi. La Thaïlande est reportée en fin de saison. On apprend que le Texas est compromis lui aussi. La Dorna étudie l'éventualité de faire plusieurs GP sur le même circuit. C'est du délire, les miches. Et Nico, les bons tuyaux, il avait la solution. Puisque le Qatar, c'est mort, alors pourquoi on n'a pas envoyé tout le paddock 15 jours avant faire une 14aine en Thaïlande? Et hop, on peut faire le MotoGP dans la foulée.
Ouais.
Parce que, en vrai, pour arrêter tout ce cinéma, c'est simple. Toute la planète reste à se baraque en même temps pendant 14 jours, et c'est fini.
Ouais. Ah oui.
Ouais. Le pire, c'est que pendant ce temps-là, l'épaule de Marc Marquez, elle se remet.
Ah oui, là.
Est-ce que tu crois que ce serait lui qui ferait cette... Bah,
ce mec est viral. Il va encore tuer le spectacle et on remet tout le monde, j'en suis sûr.
Ah oui, tu penses que ce serait lui qui...
Il lui faut encore un mois pour Marquez.
Moi, je dis, dans mes prévisions, j'ai mis Marquez parce que franchement, avec la chance qu'il a, franchement, là, je dis, c'est chapeau. Hein. Franchement, on lui donne carrément 2 mois d'avance, enfin 2 mois pour se rétablir, alors que d'habitude...
On avait une petite chance que Quartararo passe, mais là, c'est mort.
C'est vrai, c'est un bol, c'est pas possible.
C'est à lui, ça profite.
Avant même la saison, il y a déjà... On lui donne déjà des nouvelles cartes. Donc, non.
Ouais, et oui, il y a des projets pour faire plusieurs GP sur le même circuit, ça devient n'importe quoi.
Ouais, mais...
Parce qu'il faut avoir 13 circuits, au moins 13 courses dans l'année, pour que ça soit homologué le championnat. S'ils n'arrivent pas à faire 13 courses, il n'y a pas de championnat.
Si on reporte les GP, et si on compte bien, si on reporte 5 GP, on se retrouverait
à faire des hivernales, au mois de janvier,
et on n'aurait pas d'essais. Pour l'année d'après.
Regardez sur le calendrier, le 15 novembre, c'était le dernier Grand Prix à Valence. Le 15 novembre.
On ne pourra pas faire.
Il pourrait aller jusqu'au mois de décembre quand même.
Bah, plus tard, les conditions, elles ne le permettent pas.
Ah non.
Quelle est la loi pour 13 Grands Prix à Valence?
Je ne sais pas. Déjà, pour être champion du monde 2020, il faut que l'année se termine en 2020.
Il y a eu des.
Oui, mais ça, c'est logique.
Bah non, mais c'est logique, mais.
Oui.
Le championnat du monde d'endurance commence l'année précédente.
L'endurance. Bon, ça c'est particulier.
Ça pose un gros problème aussi pour les financements et tout ça. Il paraît c'est vraiment un peu emmerdant.
Mais je vois pas, parce que si on reporte 3 grands prix, on peut pas les décaler, on peut pas les remettre à la fin de l'année.
Non. Donc il va y en avoir de supprimer. Et ils sont obligés d'avoir 13 grands prix pour homologuer le championnat.
À moins qu'on fasse un grand prix le samedi et un grand prix le dimanche.
Donc ils veulent faire plusieurs grands prix en Espagne. Il y en a déjà qui en a pas mal. Et ils veulent faire plusieurs grands prix en Espagne.
Ça existe encore.
Ouais. Comment ?
Ça profite à qui ça encore ?
Bah voilà.
À Marquez.
Bah voilà.
Exactement.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai, c'est peut-être que c'est lui qui a créé ce virus. Bah,
c'est
là.
Évident, hein, c'est pas juste de la question.
La théorie du complot.
La théorie du complot.
La théorie du complot, je dirais que c'est les États-Unis hein, qu'ils ont mis le virus en Chine.
Hein. Oh là 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 là. Bon, enfin bref, moi je propose qu'on passe un morceau de musique et que éventuellement on puisse parler un peu de la Moto 3, un peu parce que là il y a des nouveaux pilotes Moto 3.
Beaucoup.
Mais moi je les connais pas. Hein, tu les connais, ouais.
Un petit peu, ouais.
Très bien. Allez, musique. Claude, la lampe est allumée, oui, voilà, donc on va partir donc, sur cette grille Moto 3, donc 13h05 tu me dis Claude, parce qu'on
à
connaît
peu plus, près, 13h05.
Alors, c'est un peu aussi, olé olé. Hein.
Du coup, qu'il n'y a pas de MotoGP, ils ont changé, oui.
Ouais. Oui, parce que les motos Grand Prix, c'est quand même un petit peu plus tard d'habitude, et là ils l'ont mis un petit peu plus tôt, donc, mais ils vont passer normalement, je passe en Belgique, hein,
Après, ailleurs, sur Canal+, j'en sais rien.
C'est partout pareil.
Ce soit en Belgique ou ailleurs.
C'est du direct.
À ce propos-là, il y a Moto Grand Prix qui a pris un accord avec Facebook. Il y aura des flashs toute l'année sur les Moto Grand Prix, Moto 3, Moto 2, qui permettront aux gens qui ne sont pas affiliés à MotoGrandPrix.com ou Canal+, d'avoir accès aux résultats des Grands Prix.
Ouais, parce que Moto Grand Prix, j'ai regardé les tarifs malgré la crise.
Ça reste cher.
Ça reste cher, ils pourraient faire un effort et dire, bon, comme les gens on loupe des courses, on va baisser nos tarifs. Ils font pas de promo, tout ça. Ça aurait pu être intéressant. Pour les gens qui n'ont pas les moyens, c'est de faire baisser un peu leur prix. Et ils n'ont pas changé leur tarif.
S'ils appellent ça faire connaître la moto, je pense que c'est le contraire. Ça va
quelles sont les solutions pour regarder les Grands Prix? Canal+, c'est ça?
Il y a Canal+, il y a...
Et alors c'est combien? C'est 45 euros par mois?
Ouais, une trentaine d'euros premier bouquet. Ensuite, il y a MotoGP.com, c'est 139 euros à l'année.
À l'année, ouais.
19 euros par mois. Et justement, hier, je regardais, je vais peut-être regarder si on fait pas une petite promo. Et non, rien.
Pas de promo.
On pourrait faire une petite promo, surtout si ça démarre dans un mois.
La Belgique, c'est gratos.
Passent pas toutes les courses. Hein. Il y a des moments où ils passent que les motos Grand Prix, et d'autres deux courses, parfois trois. C'est rare, mais ça arrive.
Bon, après, en 30 euros Canal+, je peux vous dire, cette nuit, j'ai regardé un reportage sur Wayne Gardner. J'ai regardé encore cette nuit aussi. C'est magnifique, tous ces reportages sur les Grands Prix des années 80.
Oui, les petits plus sur Canal+.
Des petits plus qui sont pas mal. Et franchement, c'est... On n'en dort plus, quoi. Bon, les alors, 500 centimètres cubes et tout. Enfin, voilà, quoi.
Super. On essaye de voir un peu ces pilotes Moto 3, là, qui ouais. Là, c'est la première course aujourd'hui, hein, pour eux. Ça commence le championnat, ouais.
Oui, il y a eu des bonnes qualifications dans pas mal de... Et ça confortait certains pilotes, quand même, hein, dans leur choix, parce qu'il y a eu des essais sur d'autres circuits. Et il y a, dans les 10 premiers, il y a quand même pas mal de pilotes qui se sont retrouvés à chaque fois dans les 10 premiers. Donc c'est quand même un signe. D'autres, il y en a parfois oui, parfois non. Alors bon, après, il faut voir sur l'ensemble de la saison. Hein. Parfois, certains montent en puissance et d'autres, moins.
Ce ne sera pas facile de faire un pronostic.
Un pronostic, non, j'en ai fait un, mais c'est comme toujours. Et des fois, ça arrive de trouver.
Ouais. En moto 3, il y a deux marques de motos. Il y a Honda et KTM, et Husqvarna, mais c'est une KTM rebadgée. Donc c'est ça souvent le problème, c'est-à-dire qu'il y a une moto qui est meilleure que l'autre. Et pendant les essais hivernaux, les Honda étaient largement devant. Et là, KTM a fait un petit coup quand même, parce que juste avant les essais, les vrais, ceux pour le Grand Prix, ils ont monté les nouveaux moteurs 2020. Et là, ça va déjà mieux, c'est plus équilibré.
Oui, c'est vachement plus équilibré. Il y a un peu de tout là. Ouais. Je pense qu'ils ont fait exactement ce que Honda leur a fait il y a 2 ans.
Exactement.
Il y a 2 ans, Honda se traînait à la 7e, 10e place. Et au moment où ils sont arrivés sur les premiers essais avant le Grand Prix, c'était un nouveau moteur et ils dominaient largement les KTM. Et comme en cours de saison, ils ne peuvent pas changer leur moteur, voilà. Tandis que là, je pense que c'est...
Donc ils ont caché leur jeu pendant les essais hivernaux. Et ils ont monté leur nouveau moteur juste avant les essais. Là, et ça a l'air d'être pas mal. Donc effectivement, on retrouve des... En Moto 3, souvent, il y a un gars qui, on ne sait pas pourquoi, il va se dégager pour toute la saison. Tous les ans, quasiment. Hein, depuis, il y a eu Mir, il y a eu Binder, il y a eu
Kent.
À chaque fois, il y a eu un gars qui est sorti et qui dominait quand même largement la saison. L'an dernier, c'est plus compliqué.
Oui, parce que ça a commencé par un Japonais qui a gagné, et après, il n'y a plus jamais rien fait. Enfin, il a fait quelques courses, deux ou trois Toba, voilà, c'est ça. Et après, il n'y a rien fait. Enfin, je veux dire, toute la saison, je ne sais plus, il a terminé 11e ou 12e, quelque chose comme ça.
Il a plusieurs fois été en tête dans le top 5, mais il s'est fait shooter ou il est tombé.
Oui, il est tombé.
Mais justement, cette année, il pourrait bien mener un peu le championnat, je pense. Parce que...
Kaito Toba ?
Non, moi je parle de Tatsuki Suzuki.
Ah, oui, ça.
Hier, il a quand même fait des bons temps et tout. Et puis, s'il arrive un peu à...
Surtout, c'est un pilote d'expérience, hein, puisque ça fait quand même sa 4e saison. Ce qui est quand même rare en Moto 3. En général, beaucoup montent. Il n'a jamais prouvé sa qualité. Donc, l'année dernière, il a fait quand même quelques pitches et il a gagné un Grand Prix. L'année dernière. Donc, c'est vrai que c'est une des valeurs montantes. Ouais.
Vincent, t'en penses quoi ?
Tatsuki Suzuki, c'est un très bon pilote. Il a prouvé l'année dernière qu'il pouvait rouler devant, mais à chaque fois, il avait un manque de chance et il tombait et il n'arrivait pas à finir les courses. Pourtant, il dominait. Il y avait la pole, il y avait le record du tour et il tombait. Donc, si cette année il arrive à se calmer un peu et peut-être gagner moins, enfin rouler moins devant.
Qu'est-ce qui lui manque ?
De la finition.
De la régularité.
Ouais, de la finition, de la régularité.
Oui. Ouais, sur un grand prix complet, sur l'ensemble des tours.
Ouais, parce qu'il part devant, il reste devant, mais à chaque fois, vers milieu de course, il tombe. S'il roulerait un peu plus derrière, comme le faisait Mir, et qu'il attendait la fin de course, je pense qu'il pourrait largement gagner un titre.
Ou De La Porta aussi, hein. De La Porta, à un moment donné, il était toujours dans les 10,
ouais.
Toujours, ou dans le groupe de
tête. Et dans
tête.
Les 3 derniers tours, il repassait devant.
Il attendait que ça se décompte. Ouais.
Surtout en Moto 3, il y a des stratégies, hein. Parce qu'on voit, c'est en paquet et, la SPI, elle est importante. Hein.
Sur des Moto3, ça prend 230-240. Sur des longues lignes droites comme au Qatar, ça fait beaucoup.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu avais le problème aussi l'année dernière en Moto3, en pré-Moto3
C'est ça qui fait la beauté des courses. Ouais. Hein. C'est que le leader change à chaque virage, quasiment. Hein. Ouais. Parce qu'il y a l'aspiration, donc tu as l'avantage
de l'aspiration. Dans le dernier tour, c'est...
Mais dans le dernier tour et avant le dernier virage, il faut avoir
l'aspiration. Mais même dans la dernière
c'est pas forcément celui qui est le premier... dans l'avant-dernier virage qui va être sur...
Ça peut changer, l'avant-dernier virage, ça peut changer au moins deux leaders, au moins trois.
Ouais, c'est ça qui est des bons.
Même dans la ligne droite, sur des longues lignes droites, ça peut même changer dans la dernière ligne droite, ça change.
Ouais.
Tout dépend aussi de l'emplacement de la ligne d'arrivée, en fait.
Ouais,
comme un Mugello où la ligne d'arrivée est vachement loin.
Donc ça veut dire qu'il faut de stratèges, il faut bien suivre les circuits, donc ne pas mener sur tel circuit, faire attention à ne pas être premier.
C'est facile à dire parce que tout le monde veut faire la même chose, personne ne veut se faire enfermer, ils sont super nombreux. Ouais. Et non, c'est très
compliqué. Et des fois, ça finit dans le bac à gravier parce qu'il y en a un qui a
très souvent même.
Surestimé, mais souvent.
Moto3, on assiste quand même à des courses magnifiques.
Magnifiques.
Et puis il y a la jeunesse, alors il y a la folie de la jeunesse.
C'est 18 ans, hein. Non, 16 ans.
16 ans. Il faut avoir 16 ans pour courir. Ouais. Avant, tu peux pas.
Ouais. Oui, par exemple, mais il faut gagner
16 ans et pas avoir plus de 28 ans, je crois.
Ouais,
c'est ça.
Le Belge Malthus, là, qui est en Grand Prix cette année, qui est inscrit, il peut pas courir avant mai parce qu'il a pas 16 ans. Alors qu'il est, programmé dans la liste des pilotes.
Bon, moi, quand je regarde la liste, hein, parce que là, je l'ai sous les yeux, il y a un truc qui m'inquiète.
Il n'y a pas de français.
Il n'y a pas un français. Ouais. Alors, on vit un rêve là, en ce moment. Hein.
Ah Raro
qui va certainement remplacer Rossi.
Hein, on voit ça, dans... fait,
ça y est, c'est fait.
C'est fait.
Ouais,
hein,
c'est voilà. Prochaine,
Zarco qui apparemment.
Il y a le moral.
Il a rencontré Zarco dimanche dernier.
Il y a le moral, il est bien. Il est confiant. Voilà, il y a le soutien.
On a deux français dans la
Il a une moto qui a déjà gagné.
Et puis il y a le soutien de Ducati.
Il y a une moto qui a gagné.
Alors, donc on est aux anges, les Français, MotoGP, on a deux pilotes, deux bons pilotes.
Mais derrière, il n'y a rien.
Aux essais
pas de relève, il a fait
aucune
7,
relève. Hein.
Aux essais, Darko, c'est le premier Ducati avec 7. Hein.
Ouais. Non, mais je parle après, là, Moto3 et Moto2, pareil.
C'est inquiétant. C'est inquiétant.
Parce que quand on regarde les Italiens, il n'y a que ça. Des Italiens, des Espagnols aussi.
On a beaucoup d'Espagnols, on a beaucoup d'Italiens. On a moins d'Américains en pilote. Il y a quelques années, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Français.
Au total, sur toutes les catégories, il y a 24 Espagnols, 23 Italiens, 8 Japonais, et après on passe à 3 pour la Grande-Bretagne, la Suisse, la Malaisie et la France 2. Donc,
Il y a McPhee qui peut faire quelque chose aussi en Moto3.
McPhee, ouais, je pense.
Il y a une sacrée expérience. Parce que
oui, il y a une sacrée expérience.
Il doit être à la limite de l'âge où il faudra qu'il passe à la catégorie supérieure. Maxi, le problème, c'est son poids et sa taille.
Il est un peu trop grand pour le gabarit.
Alors, il faut aussi
Non, il est
très petit.
Il doit faire 1m62, je crois.
Il appelle le jockey.
Il pourrait jouer.
C'est ce qu'il faut pour le Moto3.
Oui, mais l'âge. Après 28 ans, il doit avoir 25, 26, je dirais.
Tu grossis après 28 ans. Alors. Vincent. T'as pas 28 ans, toi.
Non, je suis 20,
17 ans, je crois. Hein.
16.
16 encore, 16. D'accord. Voilà, écoutez.
En espérant qu'on a Vincent champion du monde.
Ouais, on a Vincent bientôt, là.
Non, mais il faut de la relève, c'est vrai que.
Il faut de la relève.
Il devrait s'inquiéter parce que.
Ah oui, ça, c'est la FFM qui devrait.
Mon coup de cœur, c'est Daryl Binder en Moto3. Je trouve qu'il est impressionnant. Il chute souvent, mais il est généreux.
Il chute souvent, très souvent.
Quand on parle de jeunesse en Moto3, il y a 10 nouveaux pilotes qui sont arrivés là. Du jeune sang sur l'ensemble des pilotes, il y a quand même 10.
Et alors, ces pilotes viennent d'où ? Ils viennent du CEV ?
Oui.
Ouais. C'est pas facile de monter en Moto3, Vincent ? Apparemment.
En moto 3 championnat du monde, il faut beaucoup d'argent.
Faut de l'argent, faut de
l'argent. Même en championnat du monde normal, il faut encore plus d'argent parce que la saison est plus longue.
Parce que justement, on se dit, tiens, il n'y a pas de français, mais toi, t'as fini 20e du CEV. C'est quand même un niveau assez relevé.
Ouais,
c'est
hein
ça. Donc on pourrait penser qu'effectivement tu pourrais monter en moto 3. Bah,
j'ai fait 2 top 10 dans l'année, j'ai fait souvent des très bons chronos. J'ai normalement le potentiel pour y aller, mais l'argent derrière.
Alors il faut acheter la moto, c'est ça?
Même pas, il faut la louer.
Faut la louer.
On peut plus acheter les motos de Grand Prix.
Mais il faut aussi après, il faut avoir. Il faut un team aussi.
Il faut un team qui. Tu te rends compte les conteneurs qui se baladent toute l'année au coin de côté du monde et tout ça, c'est un coût énorme.
Un bon team parce que certains sont un peu englués dans certains teams où ils ont eu plein de problèmes et d'autres pas.
Donc si je comprends bien, si tu avais de l'argent, tu serais pas là dans les studios de Radio Campus, tu serais au Qatar. En train de te préparer la première épreuve du championnat du monde 2020.
Il faut pas oublier que les sports mécaniques, il y a certains,
ça a toujours été
un sport de riche. Ouais. Et ça, c'est pas de moi, c'est de pilotes des années 60.
Et du Pasquier là, qui est le Suisse, qui était 21e pourtant et qui est en moto 3. Hein.
Bon, ben, on passe à un morceau de musique et après, je pense qu'on pourrait parler Moto 2 parce que ce sera les deux catégories qui vont donc Moto 3, on a dit 13h05, alors on n'est pas sûr de l'horaire.
13h, 13h05.
Parce que ça a changé tout le temps cette semaine-là. Ouais. Voilà. Bon, on passe à un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Troubles coming our way, an icy storm, clouds are brewing. I'm thinking trouble's about to win the day. And all the people in all these lands, hold tight, take a narrow-minded stand. No love for brothers, not a care for sisters. Displace what we hold dear. I cry no, and I'm taking a stand to fight this evil, evil in the heart of man, in the heart of every man. Don't look to the left, to the right, you know the middle is nowhere in sight. Just fix your eyes on the prize. Now if truth set us free from all these lies, and cry no, and take your stand, and fight the evil, evil in the heart of man, in the heart of every man. The very things I can't do.
spéciale première épreuve du championnat du monde 2020, championnat du monde de vitesse. On a parlé Moto 3, Claude.
Oui.
Moto 2. Moto là, il y a des pilotes qu'on connaît. Hein.
Ah, il y a beaucoup de gens qu'on connaît, des gens qui sont passés, donc il faut un temps d'apprentissage, je pense. Hein, en Moto 2, Moto 3, c'est pas exactement les mêmes conduites, mais non, il y a plein de gens qu'on connaît. Il y a le frère de Valentino Rossi,
Marini,
Marini, ouais, qui est pas mal. Cette année, je pense que
C'est pas le frère, c'est le demi-frère.
Le demi-frère,
c'est le demi-frère.
Oui, la même maman et pas le même papa.
Ça peut être que ça.
Alors Luca Marini, hier, deux en pole, position, mais deux.
Oui.
Avec son coéquipier.
Ils ont le même chrono en fait. Hein,
Marco Bezzecchi.
Exactement le même chrono. C'est exactement le même chrono. Et Roberts, il a eu la pole parce que.
Il était tout seul.
Le deuxième meilleur tour, c'était Roberts qui l'avait.
Et voilà, Roberts, il vient d'où? Parce qu'en fait, c'est un pilote américain.
Ouais. Il n'a rien à voir avec Kenny Roberts.
Il
était 28e l'an dernier.
C'est le poulain de John Hopkins.
Donc, voilà.
Pilote américain.
Et apparemment, on parle beaucoup de lui.
Bah, il a fait la pole.
Ouais. Ah, il a fait la pole, bah, c'est pour ça.
Il a fait deux fois la pole en Q1.
Il a fait la pole et il a mené une séance d'essai.
Ouais.
Et ouais, il a l'air en forme. C'est vrai que l'an dernier, il était un petit peu dans l'ombre.
Il était sur NTS, c'est une petite marque au niveau du châssis qui était.
Je crois que son meilleur résultat l'an dernier, devait être dans les 10. Donc il n'a pas fait grand chose. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, là, ce gars-là.
Il y a eu une réorganisation aussi de l'American. Ouais.
Et là, son équipe, c'est la même que Marini, non?
Non. Marini et Bezzecchi, c'est la VR46.
D'accord.
Donc, hier, ils
c'est le team de Valentino Rossi. Voilà.
Ils se sont vraiment aidés pour essayer de le rattraper. Et ils sont tirés la bourre pendant tout le temps pour rattraper l'Américain. Mais bon, c'était peine perdue.
Donc on retrouve Navarro aussi.
Navarro, oui, très bien placé. Très bons essais avant, hein. Franchement, là aussi, je le place aussi.
Et lui, il est sur speed-up. Hein.
4-5-1.
Il est sur speed-up.
La speed-up qui marche très très bien. Hein. Dans tous les essais, les trois speed-up étaient en bon.
Les speed-up sont rapprochés des Kalex.
On rappelle que c'est la moto, c'est la même marque. Hein.
C'est le même moteur. C'est le Triumph 3 cylindres.
C'est les châssis qui sont différents.
Sauf que c'est le châssis qui est différent.
Voilà.
Tout à l'heure, en Moto 3, on parlait, c'était les marques. Surtout KTM et puis
la moto est différente.
Il y a deux Husqvarna.
Ouais, parce que même KTM avait un châssis et il a plu. Ils ont gardé les mêmes couleurs par contre, les couleurs couleurs KTM, ils l'ont gardé.
Donc KTM s'est recentré sur la Moto 3 et la Moto GP.
Voilà, parce qu'ils ont leur propre moteur. Donc
Y a Fernandez aussi.
Oui. Un autre Fernandez, parce qu'en 125,
en Moto 3, il y a un Fernandez aussi.
Il y a un Fernandez.
Voilà, il est bien placé aussi, lui.
Là, par contre, il a fait 12. Hein, il a
12e
fait
12. Temps,
oui. Oui, mais je le place quand même dans les gens bien, parce que l'année dernière, personne ne le connaissait. Et il a marché, il a fait un remplacement en cours de saison.
Ouais.
Et il a bien, bien marché. Il a un peu raté un petit peu les derniers Grands Prix, mais franchement, chapeau. Hein. Je pense qu'il y a suivi quand même.
Moi, je pense que Gardner, il en gagnera un au moins cette année.
J'aime bien parce qu'il y a des Roberts, il y a des Gardner.
Ça rappelle des souvenirs.
Sauf que Gardner, c'est quand même le fils de Gardner.
Rémi Gardner, c'est le fils de Wayne Gardner.
Ancien champion du monde.
Ancien champion du monde, 87. Ça ne rajeunit pas.
Tu m'as pointé Xavier Vierge.
Oui,
Claude.
Alors. L'année dernière, il s'est fourvoyé, je ne sais pas comment, mais franchement, je ne m'attendais pas qu'il se ratatine à ce point-là. Il a été un peu viré, enfin mis sur le côté. Et cette année, sur tous les essais qu'il a fait, on dirait qu'il veut se racheter. Et je pense que oui, possible.
On le connaît un peu parce qu'il a été avec la Mototech 3 en Moto 2.
Et pendant deux ans.
Il marchait bien.
Il marchait pas mal.
Il y a même un Ponce.
Edgar Ponce. Oui. Lui, ça fait un moment.
C'est un allumé. Hein. Il y a pas mal de chutes aussi.
Il n'est pas spécialement sympathique.
Elle est belle.
Ouais.
Donc, je sais pas. Ça peut marcher d'un seul coup. Hein. C'est-à-dire que ne pas chuter et être dans le groupe de tête, ça peut arriver aussi. Hein. Après, d'autres. Il y a Bezzecchi. Qui marche mieux que l'année dernière. Et puis il y a Martins aussi, qui a fait de très bons, mais parfois il fait pas de bon test. On ne sait pas s'il met au point sa moto. Ou...
Bah, l'an dernier, il avait la KTM, mais il ne s'est pas bien habitué avec son cadre. Donc là, je pense que ça devrait aller.
Il a failli gagner aussi. Donc non, je ne sais pas.
Manque de régularité.
Manque de régularité, voilà.
Et après, il y a des anciens MotoGP. Il y a Chérine qui a descendu. Qui est redescendu. Il y a Lutti, c'est une énigme. Lutti,
c'est une catastrophe. Ouais.
Ben oui, parce
18.
Que. 18. Oui, mais alors qu'il avait fait des bons essais.
Oui, c'est vrai. Exact. Il a fait... Oui, puisqu'il est terminé deuxième dans pas mal de saisons, de pas mal de décès. Ouais. Et donc, je sais pas. Là, je...
Mais... Il dit qu'il y a un virus sur sa moto.
Attendez.
C'est vrai. Il dit ça. Il dit je comprends rien, il y a un virus sur ma moto.
Attends, il a chuté deux fois violemment et il y a eu les essais juste après. Alors, il y en a qui ont dit que ça l'a beaucoup refroidi pour, pour prendre des risques. Donc, là aussi, il faut mettre des parenthèses. Mais à la longue, je pense qu'il sera placé quand même.
C'est un vieux de la vieille.
Il y a eu énormément de chutes aux essais Moto 2 et des Highside. Et énormément de chutes de
il n'y a pas les motos GP pour nettoyer la piste de la gomme.
Le circuit du Qatar est extrêmement glissant.
C'est vrai.
Il y a un japonais qu'il faudra peut-être suivre aussi.
C'est quand même un truc dans le désert.
Il faut revenir sur le circuit. C'est un truc dans le désert. Il n'y a personne.
Voilà, il n'y a personne.
Il n'y a pas de spectateurs. Mis à part quelques
personnes avec un torchon sur la tête.
C'est pareil. Il faudra qu'il chute moins.
Alors il y a quand même 9.
D'ailleurs, c'est ça qu'on comprend pas. Pourquoi on a interdit MotoGP ? Parce qu'il n'y a pas de spectateurs,
il n'y a que des cailloux.
Il n'y a que des cailloux. C'est un circuit qui est dans le sable.
Construit il n'y a pas que des cailloux, il y a beaucoup de lampadaires aussi.
Et du pétrole.
Donc c'est vraiment bizarre.
Il y a quand même 9 rookies aussi en Moto2. Donc Canet qui surprend quand même, parce qu'il a fait 16 en résultat, mais il avait quand même fait 6 en FP3.
Non.
Donc Canet, il marche bien. C'est assez surprenant pour un gars qui vient de Moto3, quoi.
On parlait de Lutti qui redescend.
Alors, il était redescendu l'an dernier.
C'est Chérine qui vient de redescendre.
Peut-être aussi, on verra Alex Marquez redescendre l'année prochaine, peut-être.
Son frère lui a dit, si c'est pas bon,
oiseau de mauvaise augure.
Il est quand même dans un team officiel.
Oui, quand même.
Et pas rien. Donc, il va avoir un petit peu de pression.
C'est un peu comme Tito Rabat, en fait, qui a été champion du monde en Moto 2 et qui a jamais su se faire à la MotoGP et qui reste dans le fond de panier des années. Quoi.
C'est un truc que je comprends pas parce que Quartararo, ça a été l'inverse. Autant il s'est jamais habitué à la Moto 3, ni même à la Moto 2, il n'a jamais rien fait.
Il a gagné deux grands prix.
Un qui n'a pas été accepté, mais qui, pour une connerie
de pression de pneus.
Il manquait 0,02 grammes.
Il était bon, mais tout le temps tombé. En Moto 3, il avait un moteur KTM quand ça marchait pas chez KTM, et il avait un moteur Honda quand ça marchait pas chez Honda. Donc il s'est fait avoir en Moto 3.
En Moto 3, il est arrivé les trois premières courses, il a trois fois manqué de les gagner.
Il a manqué.
Au Qatar, c'est moi qui le passe
à
la spin.
Il a manqué,
Bon. Après, il est tombé dans des équipes. Vu que ça n'a pas marché vraiment en Moto 3, il s'est retrouvé avec une mauvaise équipe Moto 2. Et puis après, il a eu la Speed Up. La Speed Up, c'était une moto particulière, elle commence à progresser. Donc, mais malgré ça, avec la Speed Up, il a quand même gagné deux grands prix. Il avait le potentiel. Il a fait quelque chose.
Quand on voit ce qu'il fait maintenant,
Quartararo, il a besoin d'être entouré par une équipe.
Tous les curseurs n'étaient pas bien positionnés au bon endroit au même moment. Là, c'est le cas et là, ça marche.
Il est quand même arrivé avec. Moi, je me souviens, il a fait le CEV, Vincent.
Deux fois, il a gagné.
Ce que tu as fait.
Son surnom vient de là, El Diablo.
Et il a gagné deux fois ce championnat. Et il est arrivé avec les dents longues.
On l'a fait arriver avec les dents longues.
Les journalistes, c'est un gamin. Les journalistes. Il avait des dents longues. Parce que moi, je me souviens d'une interview. Texto, il a dit je gagnerai le champion le 3.
Voilà.
Et après le 2, et le futur, peut-être le grand.
Ils vont pas vous perdre, les mecs. Hein.
Peut-être
donc
le grand.
Zarco, il dit ça aussi, sans arrêt, il va gagner.
À 15 ans, un peu d'humilité.
Justement, il a repris d'humilité.
C'est des tueurs.
Il sortait d'un championnat, il avait survolé, c'était niveau championnat du monde junior. Il a survolé le truc, il arrive en grand prix, tout le monde lui a dit tu vas gagner aussi, il avait dit tu vas gagner la première année. Donc je pense normal qu'il n'y avait plus les pieds sur la terre.
Ils ont foutu le melon avant,
Un peu trop.
Bon, alors le gros problème en Moto2, c'est pareil, il n'y a pas de Français. Donc il n'y a pas de relève.
Non, alors, c'est grave. Franchement, c'est un vrai problème. Hein, parce qu'on peut être fier de la situation actuelle, mais ça ne va pas durer. Hein.
Bah non, ça ne va pas durer, c'est ça.
Et
ouais.
Puis, oui.
Garzarco, il a 29 ans, je crois, maintenant. Là, oui. Et bon, Cotaro, il a 20 ans. Mais...
oui, il a 20 ans. 21, là, cette année.
Mais c'est plus jeune.
Non, mais si on a un pilote français en MotoGP, on ne peut pas avoir des pilotes dans toutes les catégories. On en a en super sport. Qui marche bien.
Oui, mais on parle, on parle pas de super sport.
Oui, je sais bien, mais on ne peut pas en avoir partout.
On parle de
on n'est pas les seuls.
C'est légèrement plus accessible financièrement. Ouais, je dis légèrement. Sport,
oui, moi, je pense que c'est comme dans les années 70-80. Hein, s'il y a des pilotes qui tirent les Français vers le haut, comme Zarco, qui peut très bien cette année faire de bons résultats, et Quartararo, il va créer des émules qui vont arriver, mais peut-être. Plus tard, non, peut-être qu'on fera plus confiance à des Français.
Vincent nous disait que c'est un problème d'argent.
C'est un problème d'argent.
Oui, mais c'est pas les émules, parce que des
pas seulement,
éventuellement, on
pas
en
seulement
a.
Des émules, mais des gens
temps,
qui vont être intéressés.
En Moto3, il y avait un team FFM pour la qui était financé.
C'est la FFM qui devrait financer.
Elle finançait un team.
Voilà.
Elle aidait un team pour qu'il y ait une présence française en Moto3. Et c'est grâce à ça que pas mal sont arrivés.
Masbou, par exemple.
Masbou
a été longtemps aidé.
Alan Tischer qui avait roulé là-bas.
Tischer, oui.
Il roulait très bien.
Bien, ouais. Très bien.
Mais suite à des problèmes financiers, il a dû arrêter.
Ouais,
et maintenant, il se retrouve en endurance.
Ouais.
Et puis l'effet Zarco, ça a été bénéfique quand même pour Quartararo. Parce que quoi qu'on dise, quand on a un pilote français qui arrive dans une catégorie, c'est toujours bénéfique pour le suivant.
Oui, bah, je pense que même sans Zarco, Fabio, il aurait été très loin.
Ah, bien sûr, ouais, c'est sûr.
Puis c'est peut-être aussi un problème de manager. Il faut trouver quelqu'un qui est bien...
Qui analyse bien les gens.
Non, mais qui est bien dans le milieu, qui connaît.
Ouais, qui a un petit réseau.
Qui a son réseau.
Ouais.
Je pense.
Bien sûr, je pense
que c'est important,
On a vu l'influence qu'avait le manager sur Zarco, par exemple. Quand ça s'est cassé la gueule, tout s'est écroulé. Hein. Donc, il a mis du temps à tourner la page.
Je sais pas s'il a gardé Jean-Michel Bayle comme manager, non.
Non, il l'a pas pris. Maintenant, c'est trop lié à KTM, à tout ça, donc il a pas trop voulu.
En tout cas, il est bien dans sa tête, Zarco.
Oui, il va mieux. On voit qu'il va mieux et qu'il se reconstruit tout doucement. Et moi, je pense franchement que cette année, il peut faire des podiums.
Alors, l'inverse de Quartararo, c'est que Zarco, quand même, on rappelle, il a été deux fois champion du monde Moto 2. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui, bien sûr. Bah, c'est pas rien.
C'est pas rien, quand même.
D'affilée, c'est les seuls. C'est le seul qui a eu deux affilées.
Le championnat Moto 2, il est jeune. Mais oui, c'est bien. C'est extraordinaire. C'est le seul à l'avoir fait.
Bon, moi, je propose qu'on passe un morceau de musique et on parlera avec Julien, on va parler promo sport. Oui. Avant de revenir à la catégorie MotoGP, on va quand même en parler quand même. Il s'est passé des choses.
Ah, il s'est passé des choses.
Les tests, les tests au Qatar, dernier test.
Oui.
Voilà. Mais on parlera promo sport avec Julien juste après le morceau de musique.
Thank you. just won't let me be.
Principalement du sport moto aujourd'hui dans l'émission, dans le magazine de la moto de Campus. Julien, tu te prépares à participer au Promo Sport 1000,
oui.
Au championnat. Donc, ce serait bien de parler des différents championnats parce que c'est vrai qu'on s'y perd aussi. Hein. Les gens qui ne connaissent pas bien, qui ne suivent pas, on a du mal à comprendre.
Ouais, en France, il y a une multitude de championnats. Le Promo Sport, c'est un championnat FFM. En fait, c'est un peu le tremplin pour le championnat de France Superbike, championnat où Vincent va courir. Donc le Promo Sport, c'est en gros, si on compare au football.
Donc la Ligue, c'est la Ligue 1 et Promo Sport, c'est la Ligue 2.
Voilà, c'est un peu ce que ça représente. En FSBK, on va se retrouver avec des professionnels de la moto. En Promo Sport, des personnes qui visent à devenir professionnels de la moto. Voilà, donc c'est un peu le résumé de...
Donc tu vises à devenir professionnel.
Alors, je pense qu'à mon âge, ça va commencer à être compliqué, parce que moi, je vais avoir 36 ans.
Ah, tu peux vivre Xarco.
Ouais, Donc j'ai commencé tout petit, mais bon, j'ai pas eu non plus...
Mais t'es plus jeune que Valentino Rossi, parce que je vois que tu arbores là, un maillot Yamaha, 46...
Ah oui, j'ai commencé la moto à l'âge de 4 ans, en fait, sur des Pee-wee, tout ça. Et du coup, j'étais bercé dans le monde de la moto depuis tout petit, et Valentino Rossi, ça reste mon idole. Et du coup, je le soutiens encore pour ses futures années. Alors, je sais pas si c'est futur avec un S ou.
Ça c'est pas les futurs avec un. Nous, c'était Barry Sheen, hein, Balou. Barry Sheen ou. Lanci Viori.
Agostini.
Ouais,
Agostini. Donc, ouais, voilà pour ma saison, du coup, c'est ma deuxième année en Coupe de France Promo Sport. J'en ai profité pour changer de moto parce qu'avant je roulais sur Ducati et donc là je suis passé chez Yamaha. Donc l'année dernière c'était un peu une année d'apprentissage avec un nouveau championnat, des nouveaux pilotes, des nouveaux concurrents. Et du coup là donc je vise une deuxième année avec, on va essayer d'accrocher le top 10 en Coupe de France Promo Sport. Donc c'est un niveau assez relevé.
C'est pour le plaisir ou apparemment tu veux pas passer une catégorie, enfin un championnat.
Alors mon but ultime c'est quand même de pouvoir participer un jour à une manche de championnat de France Superbike, donc en 1000 quand même, parce que bon je me vois pas redescendre en 600. Et du coup ça c'est quand même mon objectif ultime. Et pour l'heure c'est déjà améliorer mes chronos pour pouvoir envisager un jour de participer à une manche pour dire d'y être allé au moins une fois dans ma vie quoi.
Très bien. Tu as fait l'endurance ?
Oui. Ouais. En endurance, j'ai fait des petites courses 4 heures du CMC à Carole. J'ai fait des manches de 300 miles au Vigan. J'ai fait les 24 heures de Barcelone sur une Ducati. On a fini.
C'est vrai, il faut finir.
Ouais, faut finir.
Ducati, la différence entre l'endurance et la vitesse, parce que la vitesse, ça dure 20 minutes. Alors, éventuellement.
En course de vitesse, déjà, c'est on va dire un sport individuel. Où là on part seul sur la moto et du coup on doit finir à la meilleure place possible et on se bat contre soi-même parce que bon faut améliorer son chrono, faut être bon physiquement et on cherche à avoir la meilleure place. Par contre l'endurance c'est complètement différent. On part sur un sport on va dire d'équipe avec énormément de personnes autour de soi. On peut avoir jusqu'à 15-20 personnes qui sont autour de nous pour nous aider sur la course d'endurance, parce qu'on a des kinés, on a des cuistots, on a des mécanos, on a un manager, on a vraiment une structure, on a des chronométreurs, on a vraiment une structure importante, et pour une course de 24 heures, il faut vraiment du monde, et du monde qui est soudé, et là on court en fait pour nous, pour nos coéquipiers, mais aussi pour toute la structure qui est derrière, quoi. Donc c'est vraiment complètement différent, et par contre c'est tout aussi magique, quoi, hein. C'est vraiment fantastique, quoi. Les courses de 24 heures.
Alors, au niveau physique, il faut avoir l'endurance pour tenir la nuit.
Voilà, il y a pas mal de préparation.
Le sommeil qui
en
commence
amont.
À...
Ouais, il y a pas mal de préparation physique en amont où faut faire un peu de sport. Hein. Faut aller courir, faut faire du vélo, faut essayer d'être prêt pour ça. Faut avoir aussi une petite connaissance des courses d'endurance aussi. Enfin, faut pas arriver sur une course de 24 heures sans avoir fait d'endurance avant. Et après, il faut savoir aussi apprendre à se reposer entre les relais, quoi. Et du coup, après, bon, si tout se passe bien, on finit une course de 24 heures sans problème.
Et comme on est à trois pilotes, souvent, on ne peut pas avoir une moto réglée exprès pour soi, quoi. Alors, il faut faire des compromis.
Voilà, en fait, on prépare une moto, on va dire, qui va être polyvalente à chaque pilote. Et elle va être réglée vraiment pour que tout le monde se sente bien sur la moto. Alors c'est un peu compliqué, surtout que, enfin, nous on avait des équipages où j'avais le collègue qui faisait une tête de plus que moi, donc forcément sa position sur la moto elle va être différente.
C'est embêtant, ça.
Donc après bon, même ça joue sur des détails, ça peut même être la taille des mains. C'est-à-dire que forcément il a des mains plus grandes que moi,
les leviers
c'est pas la même distance. Bon, du coup, on a même installé des molettes pour régler le départ.
Il y a Vincent qui se met à côté, je sais pas pourquoi.
Non, mais moi, je pourrais pas rouler avec des leviers ou des embrayages.
Si tu fais de l'endurance, Vincent, il faudra bien t'y habituer.
L'endurance, c'est une capacité gênant. D'adaptation. Ouais.
C'est vraiment gênant, les leviers qui sont pas à la bonne taille ou quoi.
Ah bon ?
Ouais, bah oui.
Quand tu vas vite. Ah oui.
Après voilà. C'est un petit détail, parce que maintenant, ils font les molettes de réglage où tu peux déporter. Alors
ça va très vite.
Ce qu'on faisait, c'est que dans la voie des stands, on réglait avec la molette pour essayer de.
On met le numéro 2 au lieu du numéro 3. Puis
voilà, exactement. Donc ça permettait un peu de pouvoir se prêter la moto et pas être gêné du tout.
C'est une discipline qui pourrait pas convenir à Zarco, hein, parce que lui, il faut la moto.
Tu dis ça, on sait pas l'avenir, hein, ce que Zarco peut faire après.
mais je pense que du coup l'endurance c'est une bonne discipline pour justement gérer sa capacité à s'adapter. C'est-à-dire que après on peut, admettons, chuter, repartir et du coup avoir le levier qui est plié, machin, enfin repartir comme ça.
Accepter de rouler avec une moto qui est pas à 100% réglée pour soi. Voilà. Et aussi en fait le but c'est pas de faire le meilleur tour, c'est de faire des bons tours mais les enchaîner. Fois. Donc avoir un bon rythme, en fait.
Si les managers te demandent de dire tu freines un peu,
pour qualifier la moto, il faut un pilote qui sache lui claquer un temps. Mais après, en course, c'est pas celle qui est plus rapide qui gagne forcément. C'est le rythme. Il faut maintenir le rythme et pas casser, pas tomber.
On l'a vu après, avec Randy Depunier.
Exactement. Lui, il fait un très bon tour, il qualifie la moto, seulement il fait gravier.
Il a fait une pole mémorable.
Ouais, terrible. Mais après, il fait gravier.
Mais de toute façon, déjà au Moto Grand Prix, il n'y a jamais eu beaucoup de chance. En endurance, c'est exactement
pareil.
Mais
t'as une équipe derrière, tu vas pas bousiller la moto. Donc tu roules un cran en dessous de ce que tu peux faire, forcément.
Alors, de toute façon, on roule toujours un cran en dessous parce que c'est impossible de rouler à 100% sur une course sur un relais d'une heure. Parce qu'en général, c'est des relais d'une heure. C'est vachement compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est du coup, faut se connaître soi et arriver à être régulier. Et du coup, faut partir de la voie des stands avec la moto et du premier tour au dernier tour. Il faut être dans le même chrono, quoi. Ouais. C'est ce qui est demandé par les managers pour une course d'endurance.
Et puis en 24 heures, t'as le soir qui tombe, t'as l'humidité qui arrive, il faut gérer tout ça.
Tous les pièges, justement, le fait de l'humidité qui arrive.
Et les chicanes mobiles, comme certains appellent, les plus lents.
Alors nous l'humidité, on a eu de la chance parce que du coup, c'était Barcelone. Donc même la nuit, il fait un temps exceptionnel. Et du coup, en fait, on arrivait à rouler aussi vite, quasiment, et ça jouait à peut-être une seconde, voire moins. On arrivait, parce que bon, le circuit est bien éclairé aussi, et on arrivait à rouler quasiment aussi vite la nuit que le jour.
Ouais, puis au bout d'un moment, tu connais par cœur, tu connais moins de gravier. Ouais.
Hein. En fait, les courses d'endurance, maintenant, sont devenues vraiment passionnantes par rapport à il y a 15, 20, 30 ans.
Elles étaient déjà passionnantes.
Ouais, moins, parce que maintenant, les temps, c'est serré, et puis ça se joue parfois.
Barcelone, c'était en ville, à l'époque, quand j'étais voir.
Et parfois,
Montjuïc.
Les 24 heures du Mans, ça se joue dans les 10 dernières minutes, comme l'année dernière, Et c'est là, on est tenu en haleine pendant 24 heures, contrairement à avant où c'était partie gagnée facilement pour certains. Quoi.
La différence avant, c'est que le mondial d'endurance, avant, il y avait de tout. C'était un peu comme l'enduro du Touquet, il y avait les pilotes usine avec les motos usine, et après il y avait ceux qui venaient s'engager pour le
juste
plaisir.
Juste pour le
moi, j'y allais en tant que spectateur quand j'étais petit, parce que mon père était mécanicien pour un team du Pas-de-Calais. Et du coup, on voyait, ils venaient avec leurs motos, c'était tout un autre sport.
L'ambiance,
en fait, il y avait les motos d'usine, on voyait clairement une différence. C'est-à-dire que maintenant, en fait, du début à la fin, en mondial d'endurance, ça va vite, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus arriver. Et puis,
il n'y a que des top teams.
Ouais. Voilà, ça va quand même vite. Même le dernier des teams, ils font quand même des chronos que la plupart voudraient réaliser. Quoi.
Ouais.
Quand on regarde les pilotes qui font aussi de l'endurance, la plupart font des courses de superbike habituellement en championnat.
En fait,
quoi.
Et
même
déjà,
en mondial.
Ça nourrit
aussi,
pas son homme, l'endurance.
Oui, les pilotes du FSBK, le plateau FSBK, il est en mondial d'endurance. Et on va dire les 10 premiers pilotes du promo Sport 1000 sont en endurance. Donc c'est plus des sélections de pilotes un peu partout. C'est vraiment ces championnats-là qui sont directeurs de...
Et des budgets ?
Ah, le budget en endurance, c'est costaud. Hein,
c'est costaud aussi.
Après, c'est pareil, comme les 24 heures du Mans, il y a des choses qui sont demandées par le circuit, comme par exemple l'essence. L'essence aux 24 heures du Mans, on l'achète sur le circuit. Donc il n'y a pas possibilité de l'acheter ailleurs. Et
tout le monde a la même.
Et ce n'est pas 1,30€ le litre. Hein,
ouais.
Donc c'est un budget course aux 24 heures du Mans, c'est quelque chose. Quoi,
à la L. À la L.
L'Avgas, non?
Au 24 heures du Mans.
Ouais.
Ah non, c'est l'essence du circuit.
C'était pour que tout le monde ait la même.
C'est du 98, mais du circuit.
Voilà, c'est le 98.
Ah oui, c'est pourquoi avec la triche. C'est
pourquoi ça triche.
Non, c'est pour une question de.
Aussi,
d'argent.
Oui, ça aussi.
Ah non, il y avait aussi des essences particulières à une certaine époque. On parlait de Elf qui fournissait des essences très très particulières.
En Grand Prix, c'est Jacques Hulteau qui.
En Grand Prix, les motos, elles roulent avec des essences qui sont.
Oui, tout à fait. Comme en Formule 1, en fait, un peu.
Même en rallye voiture.
Voilà. Donc tu as l'intention de faire le promo sport 1000. Hein.
Promo sport 1000.
Donc
si
des gens avaient un peu d'argent, qui ne savent pas quoi en faire.
En fait, ce qu'on recherche avant tout, c'est des petits partenaires. Enfin, on ne demande pas des sommes astronomiques. Ou alors des partenariats pour avoir des pièces ou des pneus ou un peu d'aide comme ça sur des prix réduits. On cherche à se développer un petit peu pour être présent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes des Hauts-de-France qui courent en championnat de France. Quoi.
D'accord. Un mot avec Vincent. Tu pars donc la catégorie au-dessus, on vient d'en parler. Hein. Donc en Superbike, Supersport 600.
Ouais.
Hein, c'est le même calendrier que le Superbike.
Ouais, c'est les mêmes dates.
Donc, normalement, ça commence fin mars.
Oui.
Si c'est pas annulé.
Au Mans,
voilà. Je vois qu'il y a 6 épreuves ou 7 épreuves.
7.
Ça se termine au Boulder. Non, pas au Boulder, j'ai des conneries là. Albi.
Ouais. Enfin, non, la course.
L'an dernier, c'était Albi.
La course d'Albi a été annulée.
Elle a été annulée, d'accord.
Le circuit est plus homologué.
Ouais.
À Carole. Voilà. Mais l'an dernier, ça a fini Albi,
Donc, moto différente.
Oui. Nouvelle moto, nouveau châssis, une R6. Plus sortie du commerce. Moto qu'on va préparer. Qu'on est en train de préparer et qui est très très bien.
Ça a changé un peu de ce que tu avais avant l'année passée.
C'est mon pneu arrière, c'est mon pneu avant maintenant.
c'est pas pareil, ouais, c'est ça.
Pareil du tout même.
Ouais. Bon, alors tu as tourné donc en Espagne sur il y a 15 jours là.
Ouais. Et on a fait des tests, ça s'est très bien passé.
C'est la première fois que tu prenais la moto en main.
Oui. Ouais. Ça s'est très bien passé, on a fait des bons chronos, on a roulé dans les chronos des pilotes qui roulaient devant en 600 FSBK, donc normalement ça devrait très bien se passer.
Tout ça en découvrant la moto.
Ouais. Le premier jour j'avais des difficultés, mais le deuxième jour on a travaillé beaucoup, on a passé des pneus et ça a été très bien.
Et avec ta taille, ça doit tourner mieux.
Bah finalement non.
Non, d'accord.
Non, parce que j'avais trouvé une position qui me convenait très bien sur la moto 3, et là j'ai du mal à retrouver mes marques sur la 600. Parce que la moto est plus grande et du coup je me trouve. Comment dire. Je me trouve moins. je trouve moins facilement ma place du coup.
Ouais. Les automatismes doivent changer, c'est ça.
Hein,
surtout le poids et tout le reste, tout doit changer. Ouais.
Bah non, c'est vraiment la position. Par exemple, dans les virages, je me tenais plus à côté de la moto, et là, il faut être plus sur l'avant pour pas qu'elle bouge ou des choses comme ça.
C'est vrai que la position peut compter beaucoup. Hein.
Ouais, ouais,
si les gens se souviennent bien, il y a Lorenzo qui a fait changer son réservoir.
Ouais,
et
ouais.
Du coup, son réservoir y avait changé, ça tout allait mieux. La position.
Est-ce que c'est vrai cette histoire là? Pendant des mois, il a demandé, Ducati voulait pas. Ouais.
Et le jour où ils l'ont changé, tout a été bien.
L'ergonomie du réservoir, ils ont changé.
Ouais. C'est vachement important le réservoir en fait. Parce que ce que les gens ont du mal à se rendre compte, c'est qu'une moto, ça se conduit beaucoup avec les jambes. Et du coup, le réservoir, si on n'est pas bien sur la moto, ça va être vachement compliqué de faire des chronos et tout. Parce que c'est vachement. C'est vachement utile
d'avoir appui sur le réservoir en fait.
Et on prend vachement appui dessus. Donc on passe d'une Yamaha où on a un réservoir vachement large et vachement évasé, on va savoir s'appuyer dessus. On va passer sur une Ducati ou une Aprilia où le réservoir est
beaucoup
tout fin,
plus étroit,
on est obligé de s'adapter quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc on peut avoir recours à des cales ou des choses pour s'adapter, pour trouver sa place sur la moto.
Alors au niveau accélération, Vincent,
ah, ça a plus d'allonge, mais niveau relance, ça va encore.
Ouais. Freinage,
l'arrière, il balaye beaucoup plus. C'est plus drôle.
C'est le poids qui fait ça ou
c'est le rétrogradage des vitesses.
Ouais, plus brutal. Ouais.
Non, pas plus brutal, mais plus libre. La moto, le châssis, enfin, le comportement du châssis et du moteur fait que l'arrière est plus libre sur les zones de freinage.
Ok. Bon, très bien, on passe à un morceau de musique et après, je propose de parler MotoGP. Hein. Enfin, il n'y aura pas lieu aujourd'hui au Qatar.
On va faire la science-fiction, la miche.
Bon,
Qui aurait fait le meilleur?
Est-ce qu'il pourrait qui aurait pu gagner le Qatar?
Quartararo.
Quartararo,
sûr et certain.
Ah oui,
Marquez et son épaule dans le sac, c'est Quartararo.
Ouais, mais bon.
Surtout vu ce que Quartararo a fait l'année dernière, les chronos qu'il faisait tout seul.
Ouais. Il découvrait, premier.
Ouais, mais avec des scies, hein, tu sais.
Et qu'est-ce qu'aurait fait Alex Marquez?
Alex Marquez. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que moi, je trouve que les deux frangins, dans la même écurie, ça me paraît risqué, moi, pour Honda.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne seront jamais champions du monde en même temps.
Oui.
Oui, c'est vrai que vous avez l'année dernière, c'est sûr. Là, c'est... Ouais, ça, on pourrait parier.
Parfaitement raison. Allez, musique, on se retrouve juste après.
Là, on va parler donc de cette fameuse catégorie reine, MotoGP, qui n'aura pas lieu aujourd'hui au Qatar parce que à cause du virus, pas le virus de la moto, hein, le virus COVID-19, je sais pas quoi là. Alors en Thaïlande, on ne sait même pas. Donc ça, c'est pratiquement
c'est reporté au 4 octobre et c'est mis en place à la place de Aragon, qui lui a été avancé au 27 septembre. Donc ça, il faut bien le noter parce que sur le calendrier, on n'est pas à jour sur le calendrier forcément.
Oui, là, on ne pouvait pas savoir. Écoute, qu'il allait avoir un virus. Voilà. Et alors, j'ai aussi. Je suis désolé, Vincent, mais il faudra faire quelque chose parce que si tu arrives en moto GP en même temps que Fabio Quartararo, le numéro 20, il est pris.
Bah, je roule avec le 21 en ce moment, du coup. Hein,
parce que je sais que 20, 100, voilà. Là, ça, tu te crois pas. Hein. voilà. Bon, que dire donc, on parle de Rossi qui, c'est sûr, l'année prochaine. Va laisser sa place.
Il laisse sa place sans la laisser.
Il échange
de place avec Quartararo. Ouais, en fait. Voilà.
Mais il garde une moto officielle.
Ils ont enfin trouvé un accord à l'amiable, sans vouloir le faire partir. On lui a dit.
C'était un handicap parce que le team pouvait pas construire son avenir. Personne veut virer Rossi parce que c'est lui qui fait venir les gens en MotoGP et on a beau dire tout ce qu'on veut, il reste dans le coup, le mec. Ouais, donc, largement.
Comme on dit tout à l'heure, il peut encore gagner.
Il fait de la pub, Yamaha.
Et donc, il fallait le garder. Donc, il est copain avec Morbidelli, c'est son meilleur pote, en MotoGP en tous les cas. Donc, avec le team Petronas, ça allait bien se passer, en fait. Il est avec son pote, il reste avec Yamaha officielle. Donc, ils ont fait un deal comme ça.
Puis il faut dire que c'est une signature qui a surpris toutes les autres équipes et qui a mis aussi dans l'embarras toutes les autres équipes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien
signer Quartararo.
Ils sont fait avoir Ducati, ils ont pris de court. Ducati aurait voulu signer Vignales. Et résultat, ils sont plombés pour 2 ans.
Ils ont dégainé les premiers.
Les signatures se font de plus en plus tôt avec des contrats.
On dirait
de
même
plus en
il
plus
a,
plus
ouais, 4 ans pour Marquez. Là.
4 ans jusqu'à 2024 pour Marquez. Alors Marquez, c'est un beau palmarès, mais s'il gagne sur Honda pendant 10 ans, ça va nous laisser un peu sur notre fin.
Rossi a relevé le challenge.
Voilà. Rossi a relevé le challenge en partant chez Yamaha. Eddie Lawson est parti de chez Yamaha, Honda, il a fait le contraire.
Lorenzo aussi, il a voulu essayer.
Lorenzo est de retour, là, mais alors pour des tests, hein.
Il y a des bruits quand même.
Il va faire une wildcard apparemment.
Lorenzo, 4 novembre 2019, il annonce sa retraite, finit la moto, voiture de luxe, je dépense mon pognon et tout le truc. Et puis il remonte sur une Yamaha et c'est le bonheur assuré. Et là, il est presque prêt à faire des GP.
C'était bizarre quand même, parce que lors des essais, il a eu une Yamaha 2019. Donc, en quoi tu peux tester, être pilote testeur quand tu testes la moto de l'avant? Et il n'a pas fait grand-chose. Donc, en fait, je pense qu'au niveau physique, il ne doit pas être encore au top. Parce que sa fracture des vertèbres, là, ça l'a bien secoué. C'est ça qui a tout arrêté. Hein. Il n'est pas encore au top. Il va faire pour le motiver, ils lui ont donné une wildcard pour faire son Grand Prix en Catalogne. Et puis on verra. Mais bon, après, c'est un pilote d'expérience, c'est évident.
Je pense qu'il est rentré dans sa famille, quoi. Voilà. Sa famille à mort.
Mais ça permet de lâcher.
Avec celle où il a gagné ses titres.
Un pilote qui a lâché et qui m'a impressionné, c'était Pedrosa. Hein. Parce que Pedrosa, alors que lui, il est pilote essayeur, un vrai, il a fait mieux que le pilote de pointe KTM, hein, que Paul Espargaro, avec la même moto. Chapeau. Hein,
il a gardé son coup de guidon.
On connaît tous les capacités de Pedrosa.
Mais bon, c'est un mec qui est sous-employé en étant là, c'est clair, parce que c'est un top pilote. Hein.
Ils ont plus la pression, c'est facile pour eux de faire des chronos quand t'as plus la pression.
C'est facile. Faut se motiver, faut garder le niveau. Rossi passe son temps à se donner des nouveaux challenges, à changer un mécanicien, à changer quelqu'un dans son équipe, justement pour se redynamiser, pour relancer l'envie.
Il a un nouveau mécano qui vient du Moto 2 et qui connaît pas le MotoGP.
Il fait exprès pour apporter du sang neuf, pour renouveler, pour se remotiver. quoi. Il a besoin de ça. Et donc, non, c'est pas si facile. Le pilote essayeur, c'est pas facile de se motiver et de faire des top. T'as pas d'enjeu. Donc, tu tournes en rond avec la même moto, tu t'es tout le temps sur un faux rythme à la limite. Et là, ce qu'a fait Pedro, chapeau, moi je dis.
Ouais, c'est pas mal.
Et donc, pour parler de Lorenzo en pilote essayeur, moi je pense que ça peut faire du bien à la marque et au team. En plus, maintenant c'est l'entente cordiale avec Rossi.
Ah oui, alors ça c'est. Donc, alors, je voulais en parler. Justement, c'est bizarre parce qu'il y a une photo là dans une revue.
Mais il y en a partout des photos de Rossi. On pensait que
c'était pas bizarre. C'était à la vie à la mort. Hein,
Tant qu'il est pas sur la piste avec lui en même temps, il aime bien. Hein. Quand il est parti, il a fait une bonne table amicale dans le dos. Rossi,
il était
ses potes.
C'est la mondialisation. C'est comme ça.
En fait, c'est la guerre psychologique. Il avait un trop dans
je rappelle que s'il n'a pas son 10e titre Rossi, c'est bien à cause de
Lorenzo.
De Lorenzo.
Mm-hmm. En 2015, Enfin, c'est une histoire entre Marquez et Lorenzo.
Il voulait son 10e titre, Rossi.
Bah oui, parce que là, ça urge, parce que Marquez, il arrive à chercher son 9e.
Oui, son 9e, oui.
Donc, on va être ex-aequo.
Mm-hmm. Ouais, donc alors je sais pas, apparemment, ils sont potes, là.
Et il y a un deuxième truc que moi, je vois quand même qui se dégage, c'est Suzuki qui est en forme.
Oui,
Les Suzuki, elles sont presque aussi maniables que les Yam, et elles ont gagné en puissance. Ils ont trouvé, avec le 4 cylindres, de quoi faire d'avoir la même puissance que les V4. Et donc, Rins, il va faire quelque chose. Hein. Ça fait regretter que Zarco n'ait pas été sur Suzuki, parce qu'il aurait été bien.
Oui, je pense aussi. Ouais, j'ai regretté aussi déjà l'année dernière, je me suis dit, oh merde.
Alors, a priori, d'après beaucoup de pilotes, il y a le fameux nouveau pneu arrière Michelin. Oui, il joue beaucoup dans la conception de.
Il améliore les 4 cylindres.
Et ça n'a pas avantagé.
Les 4
cylindres en ligne. Ça n'a pas avantagé Ducati.
Ducati non plus.
Ducati non plus. Tous les V4, ils ont. Ouais. La transmission, elle se fait moins bien. Plutôt un petit peu moins bien. Enfin, ils n'ont pas encore trouvé le bon réglage. Par contre, ça a donné un coup de boost pour les deux moteurs 4 cylindres en ligne, à savoir la Suzuki.
Par contre, il y a beaucoup d'innovations de chez Ducati qui sont parties chez Yamaha. Du style LED au départ, le petit cabrage.
De toute
façon, Ducati, c'est l'arrivée des idées. Après,
chez Ducati, ça innove de partout. C'est contesté l'année précédente et c'est approuvé l'année suivante.
Par contre, on va avoir un retour d'un pilote en moto Grand Prix. Bradley Smith.
Ah oui.
Il va dépanner parce qu'il est un pilote essayeur et qui va faire la saison. Enfin, pour l'instant, il va commencer la saison. À cause de Iannone et des problèmes.
Si jamais il commence.
Si jamais il commence. Voilà.
Et alors, Alex Marquez, le frangin, est-ce que vous en pensez quoi?
Comme en fait son frère était à l'épaule un petit peu dans le sac, il y a beaucoup d'images où il monte les trajectoires à son frère, ils roulent ensemble avec le l'un derrière l'autre. Comme il roule un peu moins vite, il a fait de l'apprentissage pour son frère là, sur la piste. C'est bien pour Alex. Après, la moto Honda, c'est pas la plus facile pour apprendre à rouler en moto GP. On a bien vu, ceux qui démarrent avec ça,
des problèmes souvent.
C'est compliqué. Hein,
il y a Cruchelot qui a bien fonctionné.
Ça fait longtemps qu'il est dessus. Donc il la connaît.
Il a l'expérience.
Mais on a vu ceux, par exemple, qui étaient passés de la Honda à la Ducati. Dès qu'ils arrivaient sur la Ducati, ça allait mieux. Pourtant, elle n'est pas réputée facile, la Ducati.
La Ducati, c'est pas facile.
C'est vrai.
Ce qu'il y a, c'est que peut-être que la Honda Repsol, elle est peut-être trop adaptée au pilotage de Marc.
Effectivement,
Marc, il est
comme la Ducati à l'époque avec.
Comme il n'y a pas un deuxième top pilote, il n'y a pas d'adaptation, et du coup, elle est vraiment très orientée pour son pilotage à lui.
Elle doit être vachement compliquée.
Il faut rouler comme Marquez exactement pour que ça marche.
Est-ce que vous imaginez voir Marquez gagner tous les titres jusque 2024? À mon avis, ça va plomber un peu le MotoGP.
Il gagnera pas, il y a Quartararo qui arrive.
J'espère qu'il y aura un peu de concurrence parce que ça va plomber.
J'espère aussi parce que
sinon, on va se retrouver dans une ère Marquez. Douane, c'est 5 ans.
Il a gagné pendant 5 ans.
Il y a quand même des années où il a perdu le titre.
Oui, mais
il y a eu des adversaires.
L'époque de Honda et Douane, il gagnait pratiquement, on va dire, 3 Grands Prix sur 4. Ouais. À chaque saison, donc c'était quand même ça plongeait pas mal.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une remise à niveau qui a été faite là. Les essais, tout ça, parce qu'il y avait, c'était quelques millièmes, c'est les 10 premiers.
Ah, c'est vachement serré.
Les temps sont serrés.
C'était serré.
Les temps sont serrés. Et les marques ont bien travaillé. Yamaha a bien travaillé.
Même Aprilia.
5-6 km.
Oui,
exact. Ouais. Ouais. Ils ont fait un petit bond.
Ils ont fait un bond en avant terrible parce qu'ils n'étaient pas du tout dans le coup. Et là.
Ils sont devant KTM.
Les essais sont devant KTM. Ils sont dans le coup. Ouais, c'est vrai que pour la première fois, toutes les marques étaient dans le coup.
Il y a Kawasaki qui a demandé pour faire une pige aussi.
En Vulcan avec la Superbike.
Mais ils veulent pas.
Je rappelle,
c'est bien dommage.
Je rappelle aux essais de Mosaï, la première Ducati, c'est Zarco. La première Honda, c'est Nakagami. Et la première Aprilia, c'est Espargaro. Devant la KTM de Paul Espargaro aussi. Donc c'est quand même intéressant comme résultat, quoi.
Oui, mais enfin, c'est
les essais de Mosaï quand même. Donc bon.
Mais c'est sur un tour. Hein. Ouais. S'il faut regarder, c'est là.
D'accord.
Ouais. Ça fait mal au bide d'en parler.
Bon. Ouais. En plus, on se fait du mal.
On termine avec le français. Donc, Yann Zarco qui pourrait peut-être aussi nous montrer que.
Ouais, je pense qu'il peut faire un podium. Il peut monter sur le podium. Il a une moto qui a gagné. S'il reprend confiance sur un circuit qu'il aime et où ça passe bien.
Avec le soutien de Ducati en plus. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant.
Il a envie de montrer ce qu'il sait faire parce qu'il a envie d'aller dans l'écurie officielle. Donc là, il faut qu'il se remonte les manches.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va gagner, mais de toute façon, on ne sait même pas quand il va commencer le championnat. Hein.
Non, oui, c'est ça.
C'est le problème.
Cette année, ça sera vraiment le problème.
Déjà, il y a des inconnus, là. Voilà. Bon, on passe un morceau de musique et puis on se retrouve juste après. Si ça va recommencer sur Campus, ça commence. Voilà. On termine cette émission. Julien,
peux nous donner les coordonnées si on veut alors, te donner un coup de main.
Alors, ouais. Tu cherches des pneus éventuellement, un pneu,
Pirelli.
Pirelli, ouais.
Non, mais bon, alors pour me contacter, c'est assez simple. Hein, maintenant, avec Facebook, vous tapez Julien Zuliani, vous tombez directement sur ma page. J'ai une page aussi pour mon association, le Zuliani Racing Team. C'est l'association qu'on utilise un peu pour financer les saisons, pour organiser les courses, tout ça. Pour les stages aussi éventuellement. En mots, enfin pour le petit final, je vais remercier ceux qui m'aident déjà depuis quelques années. Du coup, il y a Vener Bike, c'est Vincent Nollet qui est un très bon préparateur moto donc dans la région. Il y a Classic Custom, donc Damien qui est un soudeur fantastique et qui répare nos carters ou qui peut nous faire des réservoirs alu ou enfin des soudures titane, etc. World Design Shop qui est dans tout ce qui est fabrication de goodies, t-shirts, stickers, un peu tout ce qu'on peut trouver en objet publicitaire. Transfer Bike, qui est un fournisseur de pièces et accessoires. Et bon, après, je pense avoir fait le tour.
Voilà, donc tu donnes ton numéro de téléphone éventuellement ou ton adresse mail?
Ouais, bah alors mon numéro de téléphone, c'est le 06 34 20 67 70. Et mon adresse mail, donc c'est zuliani.racing.team@gmail.com.
Je rappelle aussi que tu es éducateur sportif FFM. Hein,
voilà,
donc,
ouais.
Tu t'occupes d'enfants de entre 6 et 7 ans, c'est ça?
Voilà, donc on peut faire du tout-terrain, du quad, de la vitesse, il n'y a pas de problème. J'ai même un petit piwi à mettre en location si besoin. Enfin, je fais des stages un peu partout. On peut vraiment s'appliquer à tous les domaines. Il n'y a pas de problème.
Ok, très bien. Vincent, est-ce qu'on fait parler Alexandra?
Non.
Ça, c'est celle qui s'occupe de la com normalement. Hein.
Ouais,
elle devrait pouvoir parler au micro hein, quand même. Voilà, on va la faire déplacer. Tu vois, on a quand même réussi. Voilà, Alexandra, donc tu es chargée de com hein, pour Vincent.
Oui, tout à fait. Donc je gère sa communication en CEV et en FSBK.
D'accord. Et donc là, c'est un nouveau challenge qui commence donc en 2020.
Oui.
Donc c'est des personnes que tu vas rencontrer, que tu connaissais pas forcément avant, peut-être?
Non, je connais déjà ceux qui s'occupent de la communication et de la presse du championnat de France, donc c'est juste la catégorie qui est nouvelle, et voilà. plus découvrir ses adversaires, etc.
Voilà, c'est ça les adversaires. Mmh. Est-ce que tu t'occupes des adversaires, tu fais des piches, tu leur dis, bon, il est meilleur ou moins bon ou...
Non.
Non, c'est pas...
Je le laisse régler ça sur la piste.
Ça va, Vincent, il est pas... Vincent, il est sympa, il t'engueule pas quand tu fais.
Non, jamais. Il y a juste quelques fois.
T'as mis un mot qu'il fallait pas. Il dit,
non, attends, ça va pas. Il dit jamais rien, c'est juste quelques fois, il a pas envie de faire certaines photos, mais bon.
Ah oui, il va pas faire les photos, d'accord. Pourquoi tu veux pas faire les photos?
Il y a des moments, je suis chez moi et puis on me dit, ouais, il faut que t'ailles faire des photos là-bas et tout.
T'as pas envie?
Bah, je suis bien chez moi, quoi.
Bon, ok, très bien. Donc, on rappelle, hein, 600 super sports hein, ouais. Dans le championnat Superbike, hein, France.
Oui.
Voilà. Donc, c'est tout nouveau pour toi.
Oui.
Écoute, j'espère que ça va commencer là à la fin du mois, parce que normalement, ouais. C'est la première épreuve, c'est le 27-9.
Je suis prêt, là. Donc,
T'es prêt?
Oui, en vrai, c'est embêté en France aussi. Hein,
Ouais. Donc, on se retrouvera en fait en fin de saison, en septembre, octobre.
D'accord.
On fera un point sur.
Si
sur
la saison est par partie.
Si là. Oui, parce que bientôt, vous allez courir l'hiver. Hein, ça continue.
Voilà. Microbe hein, l'hiver.
Voilà. Ouais. Très bien. Bon, on termine l'émission. Je vous remercie d'être venu ici dans les studios Radio Campus Lille.
Merci à vous.
Jean-Pierre, alors vraiment oui. Balèze aujourd'hui.
Oui, merci.
Hein.
Oui. j'ai pris ma place.
Alors Nico, merci pour cette intro. Hein. Voilà.
C'est malheureux. Il fallait bien avoir un peu d'intro.
Il faut un peu d'humour. Parce qu'en ce moment, il en faut. Parce que quand tu regardes les infos de la télé,
c'est déprimant.
Il faut un flingue et il s'en met une dans la tête. Oui, non. Merci Claude.
Oui, salut.
On se retrouve quand en fin d'année ou je sais pas, on verra. On sait plus maintenant.
Milieu d'année, peut-être. Faut voir à quel Grand Prix ça va.
Au mois de mai, c'est Grand Prix de France.
Ou juin, peut-être, parce que.
Grand Prix de France, ça va être un peu short.
On verra bien.
Il va y avoir deux Grands Prix.
On verra bien.
Ça sera bon, pas voilà.
Nicolas, merci aussi d'être passé.
Merci Lamiche, merci à toute l'équipe. Et puis, vivement le début. Quoi.
Merci Alexandra. Et alors, direction droit, Alexandrie, hein. Ça fait comme ça. Voilà. Merci Laurent.
Eh ben, salut, la semaine prochaine, si on n'est pas malade.
Normalement. C'est un bon dimanche.
Ben, je le ferai de la maison,
salut.
C'est pas grave.
Au revoir. Au revoir.